France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Tous les samedis, une heure ou presque, pour s'intéresser aux petites et grandes mutations de nos sociétés. Et parce que certaines discussions méritent d'être réentendues, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir ou redécouvrir deux sujets qui nous ont particulièrement marqués.
Hi Barbie!
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 Un an après le phénomène Barbie, une question: peut-on réconcilier féminité affichée et féminisme? Car oui, les bimbos sont de retour sur les réseaux sociaux et dans nos rues, souvent méprisées, toujours moquées, elles reviennent sous une nouvelle forme, plus politique que jamais. Leur combat: pouvoir se faire entendre tout en continuant d'être perché sur des talons de 12 et porter des décolletés plongeants. On écoute Chrissy Chapleka, porte-voix des bimbos, sur le réseau social TikTok.
Je ne fais pas ça pour le regard misogyne des hommes. Je le fais pour mon propre regard. Et en plus, mes seins sont super.
Le mode de vie bimbo peut-il être une philosophie féministe? On en parle dans un instant. Et puis nous avons eu envie de nous pencher sur ces vidéos qui se sont glissées dans tous nos fils sur les réseaux.
La Tufafa, vous allez choquer des prix. Vous avez la bouteille d'huile là pour 1,39€. Les 5 kg d'oignons sont à 2,49€. Les 5 kg de pommes de terre sont aussi à 2,49€. Mais c'est pas fini, hein. Quand j'ai des bons plans, je vous partage. C'est pour ça, je vous dis abonnez-vous.
Ces contenus, on l'envoie à monsieur et madame tout le monde, présentant des produits et des courses, se sont mis à exploser par centaines de milliers. La fameuse ménagère de moins de 50 ans, la personne responsable des achats, cible phare du marché publicitaire, est devenue un média à part entière. On l'a entendu à l'instant avec l'influenceuse Fafa. Les grands groupes ciblent de plus en plus ces spécialistes de courses et autres bons plans sur les réseaux, suivis par des petites communautés. Elles ont et ils ont un grand pouvoir d'influence. Quand les bimbos et les ménagères de moins de 50 ans reprennent le pouvoir, bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. Ça cause mon fiat qui l'éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal.
Sous BBL de Théodora, véritable hymne bimbo, celui des grosses fesses et des gros seins qu'on porte haut. Un titre mascotte dans un monde nouveau qu'on avait envie de vous faire entendre en introduction de ce premier sujet, la revanche de la bimbo, donc féministe jusqu'au bout des ongles. Et pour en parler, j'accueille trois invités. Eddie Blanchard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice, directrice artistique et vous signez un essai très stimulant chez Lattès, Bimbo, repenser les normes de la féminité. Vous avez à vos côtés Mélissa Amneris, bonjour.
Bonjour.
Figure des réseaux sociaux, très engagée sur les questions de féminisme. Vous êtes la créatrice du podcast Deep et vous vous qualifiez vous-même de baddie engagée.
C'est ça.
Alors, sous-titre, définition?
Alors, une baddie, on pourra en parler un peu plus amplement, mais je pense que c'est le nouveau terme pour dire bimbo dans notre génération. Il y a d'autres termes qui apparaissent encore dans les nouvelles générations parce que je suis plus si jeune, j'ai 26 ans. Et engagée...
Ah oui, oula, attention.
Ça fait mal. Ça commence à arriver, il y a d'autres termes qui commencent à arriver. Il y en a certains que je ne comprends plus déjà. Donc voilà, je suis engagée aussi, puisque militante, notamment sur le droit des femmes, mais aussi sur l'intersectionnalité en général.
À vos côtés, Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, directrice de recherche émérite au CNRS, autrice cette année, entre autres, de L'égalité sans retour aux éditions du CNRS. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir.
Merci à toutes les trois d'être là. J'aimerais vous poser à chacune une première question plus personnelle. On vous a déjà traité, entre guillemets, de bimbo, Eddie?
Non, moi pas de bimbo, mais plutôt de femme fatale ou femme sensuelle. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des clichés qui entourent un peu la figure de la bimbo. Et j'en suis pas complètement une. Par exemple, on a l'impression qu'une bimbo, elle a forcément fait de la chirurgie esthétique dans l'imaginaire collectif, ou elle serait forcément blonde. Et c'est pas mon cas. Donc je pense que c'est aussi pour ça.
qu'on vous a pas traité de bimbo.
Ouais. Il y a aussi toute une question parfois de milieu social ou du fait d'avoir fait de la télé-réalité ou non, ce qui n'est pas non plus mon cas. donc voilà, vous l'avez dit, je suis réalisatrice et forcément, j'ai des talons hauts souvent quand je réalise, j'ai des jupes.
Il y a un regard qui traîne, mais ça va pas jusqu'à la parole, enfin on dit pas bimbo.
Exactement.
Et vous, Mélissa Mneris ?
Oui, je pense que tout le sujet de l'émission, ce sera de poser une vraie définition sur ce mot-là. Femme fatale, comme tu disais, c'est plus le côté amélioratif du terme. Moi, la première fois qu'on m'a traité de bimbo, parce que c'est bien traité, qu'il faut dire, parce que là, c'est du coup péjoratif, c'était ma CPE. Et je devais être en première.
Donc, c'est la conseillère d'orientation.
C'est ça. Donc, j'avais peut-être 15-16 ans. Et c'est la première fois qu'on m'a traité de bimbo, parce que j'étais arrivée en retard ou quelque chose comme ça. Et elle me disait, si je prenais moins de temps à me maquiller, peut-être que j'arriverais à l'heure à l'école. Mais c'était surtout quelqu'un de très frustré, très jalouse, je pense.
Geneviève Fraisse, on vous a déjà traité de bimbo ?
Non, pas vraiment. J'appartiens à une génération où ce n'est pas l'apparence liée aussi à la consommation, ça c'est obligé d'ailleurs, c'est dit, qui se manifestait dans la présentation dans la jeunesse des années post-68 art.
Et qu'est-ce qu'on entend par bimbo justement ? Si on devait poser une définition, on en parle à l'instant, Geneviève, vous diriez quoi ?
Je dirais que c'est à la fois une performance, une réappropriation derrière ce qu'on va appeler l'image. Et entre la performance et la réappropriation, je me demande vers où ça nous emmène. Et je me disais à un moment que c'est une référence à une citation sartrienne qui dit « l'existence précède l'essence ». Et là, c'était « l'apparence précède l'essence ». Donc c'est sérieux.
Alors, cette définition du dictionnaire, on peut la donner puisque vous la rappelez dans votre livre, Eddie Blanchard. C'est une jeune femme à la féminité provocante et stéréotypée. C'est toujours ça pour vous. Je crois qu'il y a une évolution quand même, Eddie Blanchard. Vous en donnez une autre définition.
Oui, tout à fait. Alors, déjà, par rapport à l'apparence précède l'essence, pour moi, c'est vrai qu'il y a ce côté, il y a tout de suite un truc très visuel chez la bimbo, donc dans ses vêtements, dans son apparence, parce que la performance, ça peut être aussi juste... du maquillage, de la coiffure, des vêtements qui sont extravagants. Mais en fait, j'ai l'impression que justement, peut-être l'écueil dans lequel on peut tomber, dans la bimbo, dans la figure de la bimbo, c'est en fait penser qu'elle n'est qu'une apparence. Et en fait, justement, moi, je voulais étudier un petit peu cette figure qui a construite, moi, la femme que je suis devenue, puisque je suis née dans les années 90. Donc, dans ma chambre, il y avait des posters de Britney Spears, il y avait Loana à la télé.
Et j'avais on en parlera.
J'avais envie de
comprendre... Nous, on avait Angela Davis.
Voilà. c'est pas
pas hyper bimbo, Angela Davis.
Et j'avais un peu envie de comprendre ce que c'était une bimbo. Et j'ai compris que justement, une bimbo, c'était peut-être une apparence, mais c'était aussi parfois une fille qui a énormément de choses à dire...
Je vous cite, Eddie Blanchard, dans votre livre. J'ai le sentiment que n'importe quelle femme ou personne qui s'identifie comme femme et qui joue avec son physique, son apparence, ses attitudes, se rapproche de la figure de la bimbo. Écrivez-vous, la bimbo fait exploser tout ce qu'on attend d'une femme respectable. C'est une sorte de mélange du viril et costaud John Rambo, incarné par Sylvester Stallone, et du personnage d'animation Betty Boop, ultra féminine et confiante. Stallone et Betty Boop, Mélissa Mneris, ça vous va comme définition de la bimbo en 2024 ?
Je sais pas. Moi, je pense qu'en fait, il y a deux définitions. Et la définition, enfin, ça dépend qui le dit. Il y a les personnes qui veulent nous insulter avec ce terme-là. Et du coup,
d'où on parle, comme on dit justement dans les années 60.
Exactement. Donc, en fait, ce terme-là, par exemple, c'est peu, comme je disais au début, quand elle m'insulte de bimbo, c'est vraiment dire tu es cervelée, tu es bête. Après, d'ailleurs, on en vient sur ça dans la discussion où elle me dit de toute façon, tu sais même pas ce que ça veut dire. Parce que je m'insurgeais de cette insulte-là.
Ah oui.
Et donc, en fait, on est vraiment dans ce stéréotype de ton apparence, comme vous disiez, Geneviève, résume, essentialise en fait notre être, alors que pas du tout. Je pense qu'on peut être autre chose quand on est une femme, mais c'est moins autorisé.
Les bimbos sont-elles condamnées à n'être que des bimbos ? C'est tout le sujet de l'émission. Derrière les fossiles et les strass, peut-on avoir une existence politique ? En d'autres termes, peut-on faire un trait d'union entre Lolo Ferrari et Olympe de Gouges ? Vous avez encore une demi-heure pour y réfléchir. On se retrouve juste après FK et Twigs.
I'm not afraid to die.
Des plus grandes artistes actuelles, la britannique FK Twigs sur France Inter. Dans ce single Child Like Things, sorti au début de l'année, elle a invité Northwest, la fille de la bimbo ultime, Kim Kardashian, à 11 ans seulement. Et après avoir débuté sur un morceau de son père, le rappeur pro-nazi qui se prend pour Dieu, alias Kanye West, North revient pour rapper en japonais. Hello, my name is North, from California to Tokyo, Jesus the King. Praise God, Jesus is the only true God. Une spéciale dédicace à son père. Il n'y a que Jésus qui soit le vrai Dieu. Quant à FK Twigs, elle sera au festival Wheel of Green en France dès le mois de juin.
Un monde nouveau, Mathilde Serrel sur France Inter.
Dorothy, tu n'as pas remarqué ? Sa poche faisait une bosse.
Ouais, peut-être un paquet de boules de gomme.
Non, c'était en forme de cube, ça ressemblait à un écrin. Je crois qu'il a un cadeau pour moi.
Tu sais, je crois que tu es la seule femme au monde capable de la scène, avec un projecteur dans les yeux, d'apercevoir un diamant dans la poche d'un homme.
Diamonds are a girl's best friend.
On est toujours avec nos trois invités sur France Inter, la philosophe Geneviève Fraisse, l'influenceuse Mélissa Amneris et Eddie Blanchard, autrice de Bimbo, repenser les normes de la féminité chez Gis et Lattès. C'est Marilyn Monroe, évidemment, qui était juste là avec nous par la magie de ce son, la comédie musicale de 1953, Les hommes préfèrent les blondes. Actrice et chanteuse extraordinaire, Marilyn est celle qui incarne presque le plus cet enfermement dans la notion de bimbo. Le malentendu commence avec Marilyn et Eddie Blanchard, d'une certaine manière.
Oui, enfin, en tout cas, c'est une figure importante quand on pense à la bimbo, parce qu'elle a très vite été enfermée dans des rôles de stupide, qui pense qu'à sa beauté, même de femme vénale. Et alors qu'en fait, si on étudie un peu sa vie, si on regarde un peu plus près ce qu'elle a dit, elle est hyper brillante et c'était vraiment des rôles même dont elle souffrait.
Mélissa Amneris, vous diriez que c'est un peu aux origines de la méprise sur la bimbo, il y a Marilyn ?
Oui, je pense que Marilyn, c'est vraiment l'image, en tout cas à l'époque, de la bimbo. Aujourd'hui, les codes ont un peu évolué. Aujourd'hui, je pense que celle qu'on va prendre comme égérie, ce serait peut-être Kim Kardashian. C'est plus que la blonde. Aujourd'hui, les brunes aussi, au même stade, se font insulter de bimbo. Et je pense que c'est là où la définition devient très floue. C'est qu'en fait, c'est devenu tellement absurde d'être une bimbo, parce que quoi qu'on fasse et quelle que soit notre apparence, on sera une bimbo, qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on doit se réapproprier ce terme qui ne veut plus rien dire.
Geneviève Fraisse, c'est important cette question de comment est-ce que c'est venu, d'où ça part. Vous le citeriez où, vous, cette imbrication comme ça péjorative de la blondeur et de la sottise, de la bimbo vénale.
Mais la question de la sottise, elle est partout, pas seulement avec la blondeur. Notamment, par exemple, moi qui ai pu travailler sur la question.
Je vous ai dit, moi qui suis blonde. Par ailleurs.
Non, on s'en fiche. dire des bêtises. Non, mais l'histoire de la pensée féministe, puisque je l'ai je l'ai vécu dans ma propre histoire, c'est quand même d'être victime du soupçon de bêtise. Ça passe pas ni par le corps, ni par l'image, ni par la bimbo. C'est-à-dire, on est toujours des imbéciles.
Oui,
quoi.
Juste par le genre,
Il y a question de la tête et du corps. Est-ce qu'on a droit à la tête si on a le corps? Et de toute façon, est-ce que la tête, on y a droit tout court?
Bah justement, Mélissa, sur les réseaux sociaux, vous avez d'abord été suivie parce que vous exposiez votre corps, vous étiez modèle lingerie, et puis vous avez commencé à porter des discours féministes, et là, vos abonnés vous ont plus du tout suivie ni comprise, en fait.
C'est vrai que j'ai commencé au tout début, c'était comme un book, finalement. C'est les books en ligne aujourd'hui, c'est beaucoup par Instagram. J'étais étudiante à côté, je me faisais de l'argent comme ça avec la photo. Très vite, c'est imposé à moi le choix de la lingerie parce que j'étais pas assez fine pour entrer dans des normes où j'étais habillée. Donc c'était très vite déshabillée. Moi, j'avais pas du tout de notion de vulgarité ou quoi que ce soit. C'était vraiment de l'e-shop, vendre des choses à des femmes pour des femmes, entre femmes. Mais finalement, ceux qui vous suivent sur les réseaux, c'est des hommes, même s'ils vont pas acheter cette lingerie-là, ni pour leur femme, ni pour personne. C'est juste pour regarder la photo.
Radin en plus.
mais oui. Et après, j'ai voulu commencer à parler et donc ça a été très compliqué parce que j'étais suivie par 90% d'hommes sur les réseaux qui ne me suivaient pas pour ma parole. Et il y a vraiment cette opposition, en fait, comme on dit depuis tout à l'heure. On ne peut pas avoir la tête et le corps, on ne peut pas avoir le physique et l'intellect. Et donc là, ça a été très compliqué.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Quel message on vous a envoyé? Comment vous vous en êtes aperçu
Je m'en suis aperçue très vite déjà dans les statistiques. On a accès à tout et on voit que beaucoup de personnes se désabonnent.
En tout cas,
et donc ils s'abonnaient vraiment juste pour l'image qui était diffusée. Et puis après ils voyaient mes TikTok.
Et quand l'image parle et qu'elle est féministe.
C'est ça. Et voilà. Après ils voyaient mes TikTok et ils se disaient mais qu'est-ce que je fous ici? Et c'est là qu'ils se rendaient compte que c'était pas du tout le bon endroit et qu'on n'allait pas juste danser et parler de make-up. Et c'est très bien des fois de juste danser et parler de make-up, mais moi c'est pas ce que je fais.
Mais il y a une relecture en ce moment justement de ces figures de bimbo qui finalement peuvent tout avoir, comme La Revanche d'une blonde qui est devenue maintenant un film très célèbre. Je lisais aussi le texte d'une essayiste et militante féministe, elle s'appelle Ilana Weisman et elle dit entre politique et ongles acryliques, en gros elle veut pas choisir. Elle remercie la bimbo. Elle a fini de me réconcilier avec mes origines sociales, écrit-elle. J'affiche sans me sentir gênée mon fanatisme pour la télé-réalité, pour Taylor Swift, pour les ongles, la culture pailletée, autant que mes dernières lectures en sciences sociales. Tout est culture, tout est légitime. La bimbo nous le susurre de sa voix sucrée.
Oui. Surtout que j'aimerais rebondir sur les choses qu'on aime, en fait. Nos passions, quand on est une femme, c'est tout de suite très risible, absurde, d'aimer les paillettes, d'aimer le maquillage. Alors qu'un homme, il va avoir des passions aussi, par exemple, être supporter de foot. En soi, on pourrait dire que c'est hyper superficiel et il joue pas au foot. Il est juste à regarder un match et à se prendre pour l'entraîneur sur son canapé. On pourrait porter un regard très ridicule là-dessus et dire ce n'est que paraître, c'est que des paillettes, c'est pas quelque chose de réel dans la vie.
Je voudrais qu'on écoute une bimbo de L'Éternel, en tout cas, qui est remise à l'honneur en ce moment dans une série qui tourne beaucoup et qui est diffusée sur Prime Video.
Je vais être encore la pute de service.
Regarde-moi. Respire. Tu te souviens du test qu'on t'a fait passer? Le test de QI. T'as eu 139. C'est plus que tous les lofters, là. Beaucoup plus que toute la prod aussi.
Extrait de culte réalisé par Louis Farge, série très bien foutue, puis-je le dire, qui raconte les dessous du lancement de Loft Story en France sur M6 en 2001. Vous avez entendu Loana alias Marie Colomb dans la série Geneviève Fraisse. Loana, dans la généalogie du féminisme, c'est une martyre ou elle a fini par être une affranchie, si on pose la question comme ça?
Mais on peut être les deux. C'est exactement retourner le stéréotype, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que moi j'avais intitulé un texte jadis devenir sujet, permanence de l'objet. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on devient des sujets qu'on cesse d'être un objet. Et alors qu'est-ce qu'on fait de cet objet? C'est ce qui est la discussion d'aujourd'hui, on se l'approprie, etc. etc.
Mélissa Mneris.
Pour répondre à la question, Loana, c'est un peu moins ma génération, moi j'ai pas trop regardé le Loft, etc. Faudrait que
vous avez 26 ans, vous êtes vieille, vous avez dit en début d'émission.
Je commence, mais non. mais du coup, Loana, pour moi, je trouve que c'est quelqu'un surtout brisé, quand on la voit qui ne va pas très bien. Je pense qu'elle a été instrumentalisée beaucoup par les médias, par l'image qu'on a voulu lui donner, et une image qui fait vendre, parce que c'est avant tout marketing aussi, la bimbo, faut pas l'oublier. Et celle qui je pense, en est un petit peu mieux sortie, c'est peut-être sa descendante, c'est Nabila, juste après, où on est dans une autre ère, une nouvelle génération. Et là, elle a su jouer de ces codes-là, hein, pareil, sur d'autres codes d'apparence, hein, parce qu'arrive aussi la beurette, ou ces mots-là qui sont très compliqués à entendre et qu'on a beaucoup utilisés. Mais elle a réussi à se réapproprier ces termes-là d'une façon beaucoup plus... de façon, en tout cas, ne pas le subir et en souffrir à la fin.
Mélissa Amneris, un mot sur justement votre parcours à vous, puisque vous avez vécu des stéréotypes de près. Vous avez grandi, dites-vous, dans une banlieue où soit on était nonne, soit on était une prostituée, il n'y avait pas de juste milieu.
Oui, c'est ce que j'aime dire, il n'y avait pas du tout d'entre deux. Et moi, j'ai été cette fille, cette petite fille, très misogyne finalement, où j'ai moi-même répété ce qu'on me disait depuis toute petite. Oui, t'es une pute parce que t'as embrassé un garçon, t'es une pute parce que t'as mis une robe et t'avais pas un collant super, super, ultra opaque à 100%. Et c'était hyper facile d'être une pute là où j'ai grandi et dans beaucoup d'endroits finalement, pas que la banlieue. Et c'est sur ça que j'ai commencé à réfléchir, c'est qu'après, quand on grandit, on commence à devenir, passer de fille à femme. Moi, je faisais déjà 1m75 et 1m95C quand j'avais 14 ans. Donc, je la choisissais pas ma sexualité, je la choisissais pas mon apparence. Mais je rentrais dans des cases où on voulait me faire dire que j'étais stupide, que j'étais débile, que j'étais une bimbo, comme le dit ma CPE, qui est quand même la représentation de l'éducation nationale, qui est un adulte, qui est censé me montrer c'est quoi le monde qui m'attend après, et qui me met face à cette violence-là. Donc, à un moment donné, c'est se dire, écoutez, j'ai pas envie de jouer au jeu qu'on m'impose aujourd'hui, qui est de diaboliser ma féminité, d'être en dualité constante entre moi et moi. Et moi, je vais l'embrasser, ma féminité. Et je peux être intelligente et je peux être aussi cette bimbo.
Du point de vue de l'histoire des féminismes, Geneviève Fraisse, est-ce qu'on pourrait dire que la bimbo, c'est un peu le parent pauvre de la sororité ?
Oula, quelle question. Non, je ne mettrais pas bimbo et sororité ensemble, ça c'est encore deux débats.
Non, mais d'une certaine manière, on sororale avec tout le monde, sauf avec la fille aux longs ongles, à guicheuse.
Oui, mais moi je reprendrais plutôt la question de la provocation. C'est-à-dire, c'est une provocation. Je parlais de performance au début. Je pense que, et cette provocation, elle est assumée, voulue, et elle a des effets sur soi-même. Du coup, quelle est la finalité, si je reprends le mot féminisme? Donc, quelle est la finalité politique, puisque c'est un geste politique, c'est ce que vous dites. Mais à ce moment-là, quelle est la finalité politique? Jusqu'où va cette provocation?
Il y a des chiffres, il y a des statistiques qui existent, et vous les rappelez, dit Blanchard dans votre livre. C'est-à-dire que parler de la figure de la bimbo, justement, c'est pas simplement léger. Il y a une résonance politique et concrète dans la vie des femmes. 27% des Français affirment que l'auteur d'un viol est moins responsable si la femme porte une tenue trop aguichante. C'est un chiffre de 2016 que vous rappelez, Eddie Blanchard. Donc, il y a un impact de cette image, de cette image de la bimbo et de ce qu'on lui associe dans la vie réelle des femmes, donc dans la vie politique.
Ouais, totalement. Et d'ailleurs, en soutenant d'autres femmes et en acceptant que chacune peut s'habiller comme elle le souhaite et d'une mini-jupe ne veut rien dire, je trouve que d'un coup, on s'échappe de cette idée reçue qui est très grave, en fait. On peut s'habiller comme on le souhaite et ça veut rien dire de nous et de nos désirs.
Et ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de cette bimbo qui peut être victime de misogynie par d'autres femmes. Il y a aussi une théorie que vous abordez que j'aime beaucoup, qui est la théorie de la jupe léopard. C'est-à-dire que la jupe léopard portée par une Parisienne, c'est pas la même chose que la jupe léopard par une Marseillaise. Ouais. Alors, si je résume, expliquez-nous.
Oui, totalement, c'est ça en fait, je l'ai appelé comme ça, mais disons que j'ai remarqué que c'est vrai qu'une fille qui porte une jupe en léopard, ouais, ne sera pas jugée de la même manière, et en l'occurrence c'est pour ça notamment que moi on m'a pas forcément moi je mets des jupes en léopard et on m'appelle pas bimbo en l'occurrence.
Mélissa Amneris.
Oui, c'est là où l'intersectionnalité arrive en fait, c'est qu'aujourd'hui c'est plus que de la misogynie, aujourd'hui on est aussi un état très cosmopolite, hein. Il y a beaucoup d'immigration et moi j'en fais partie, ma mère est d'origine chilienne, donc latina par ma mère, et mon père est franco-marocain, donc maghrébine par mon père, où arrivent deux stéréotypes qui se croisent et qui font un métissage où en fait aujourd'hui au-delà d'être une femme, je suis aussi une femme typée et une femme qui vient de banlieue, donc c'est vraiment ces trois causes qui se lient, et donc on est beaucoup plus facilement cette fille vulgaire. On peut se demander aussi quelle est la définition de la vulgarité, parce qu'elle est intrinsèquement liée, je pense, à la bimbo.
Si on fait cette émission aujourd'hui, c'est que celle qui est de 2024 n'est pas la même que Marilyn Monroe, justement. Voilà, on prend 70 ans en arrière, on a bougé parce qu'elle s'est ouverte, elle est plus inclusive, elle est protéiforme, dites-vous. Et ça, c'est le départ de l'observation de votre livre aussi, Edith Blanchard.
Oui, totalement. En fait, il y a eu après MeToo, il y a eu un comeback un peu des femmes qu'on identifie comme des bimbos dans les médias, notamment Pamela Anderson, Paris Hilton, Britney Spears. Et en fait, elles ont toutes parlé de leur histoire, elles ont fait des autobiographies, des documentaires. Donc déjà, il y a eu ce côté où d'un coup, la bimbo, ben, en fait, elle s'exprime à fond, elle parle, elle a plein d'idées. Et par la suite, il y a eu aussi une...
Bimbo Talk.
Voilà, exactement, une tendance sur TikTok, où d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait être bimbo de plein de manières différentes et de manière très inclusive, surtout. Il n'y a plus besoin d'être une blonde avec des gros seins ou un corps parfait et au bon endroit. Non, d'un coup, en fait, c'est une étiquette qu'on peut s'attribuer juste pour dire qu'on a envie de s'aimer soi. Et ça peut vraiment s'entendre.
Et oui, et c'est ça, qui veut s'aimer et qui n'est pas tout à fait simplement centré sur elle-même dans son acceptation et son affirmation, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une dimension politique chez la bimbo version 2.0. Je voudrais qu'on écoute un extrait de la philosophie Tana Land.
Tana, c'est un terme qui nous a été désigné par les garçons pour nous traiter de salope, grosse pute, femme de petite vertu. Bref, vous avez compris. Du coup, nous les meufs, on a fait quoi? On s'est réapproprié le mot. On a commencé à faire plein de TikTok en mode on est archi contente qu'on traite de Tana. Et en fait, le mot, c'est plus péjoratif maintenant pour nous. Le mot, c'est considéré comme bad bitch.
Ça y est, la bimbo, la Tana, c'est une bad bitch. Aujourd'hui, Mélissa Amneris.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on
a renversé l'insulte, c'est fait.
Ça y est, je pense que c'est fait. Je vais quand même repréciser celle qui a inventé Tana Land, c'est Adja. C'est une créatrice de contenu qui était sur les réseaux et qui a décidé de dire, bah écoutez, puisqu'on est toutes des Tana, et ben moi je m'en vais à Tana Land. Et elle illustre très bien avec sa petite vidéo. Elle prend sa valise et elle s'en va. Et ça a été vraiment mais repris par tout le monde. Et je pense
Tana,
que
Tana, ça venait de Putana, une insulte Putana, en espagnol.
C'est ça. En fait, c'est ça vient du monde du rap, etc. Et en fait, c'est un nouveau mot que les hommes ont encore inventé parce qu'il y a une multitude de mots finalement quand on y pense. Pour insulter les femmes, surtout de pute, hein, alors qu'à la base, bah, c'est le plus vieux métier du monde, hein, c'est tout. Et là, c'était le mot Tana, et on le voyait vraiment être partout sous les commentaires des vidéos. Donc, bah, puisqu'on est toutes des Tana, bah, on s'en va, finalement.
Et les Tana au XXIe siècle, elles ferraillent aussi avec les masculinistes qui sont très présents sur la réseausphère, avec un mouvement qui consistait à rhabiller digitalement les femmes qui étaient soi-disant dénudées ou qui avaient juste des débardeurs. On a vu ça, hein, Mélissa Amneris, Eddie Blanchard, vous en parlez dans votre livre de ce mouvement Dignified AA.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu étrange sur Internet d'observer que du coup, il y a des masculinistes qui ont rhabillé des femmes qui les estimaient trop dénudées, même des filles juste en débardeur, hein, quoi. Donc il y a vraiment un côté aussi très objectifiant. Et à l'inverse aussi, on voit qu'il y a plein d'hommes qui se sont amusés aussi à juste déshabiller des femmes à partir de photos existantes.
Moi, je n'emploie pas le terme masculiniste. Je pense que c'est un mauvais terme, parce qu'il s'opposerait à féminisme, mais le féminisme, c'est un mouvement politique, et le masculinisme, c'est plutôt... Parlons plutôt soit de domination masculine, soit de patriarcat, soit de virilisme, si on veut, mais quand on utilise le masculinisme, on en fait un opposé au féminisme, et c'est faux. Le féminisme, c'est une production théorique, intellectuelle, etc. Le masculinisme est une position qui serait une qualité identitaire, etc. Ça n'a rien à voir. C'est un mot qu'il faudrait, à mon avis... mettre de côté.
Mélissa Amneris.
Oui, je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est eux-mêmes qui se sont appelés des masculinistes, vraiment, bah, c'est ça, en opposition au féminisme, comme si on pouvait dire que le matriarcat existait, que les hommes souffraient autant de leur genre que les femmes, et c'est ce qu'ils essayent de nous faire croire, hein, avec leurs vidéos. Mais finalement, ils prouvent tout le contraire quand on regarde ça d'un œil un peu plus éveillé. Si on reprend voilà, l'apparence dont on parle depuis tout à l'heure, ce facteur-là, les masculinistes eux-mêmes vont faire l'apologie de il faut prendre soin de son corps, il faut aller à la muscu, il faut être musclé, il faut être charismatique. Et ça, c'est autorisé. Et pourtant,
le
masculin, c'est des bimbos aussi.
Est une bimbo comme les autres. Là, j'ai écrit cette chronique un jour, figurez-vous. Alors, mais ce qui est intéressant pour finir, parce qu'on parlait des masculinistes, mais on enlève le titre, disons, les virilistes. Le mot. Donc, ce soit Joe Rogan, les Neck Boys, etc. Il y a eu un accoquinage, en fait, entre Donald Trump et cette sphère, qu'on appelle aussi la manosphère. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui était né en Corée du Sud, qui est en train d'exploser aux États-Unis, que vous avez suivi, vous, Mélissa Amneris. C'est le mouvement des 4B. Pour nous expliquer ce que c'est, d'abord, qu'on comprenne. Et puis là, c'est en train de prendre forme depuis la réélection de Donald Trump, vraiment aux États-Unis.
Oui, bah c'est, en fait, c'est plein de petites choses qui sont en train d'émerger. Où, depuis tout à l'heure, on parle de ras-le-bol, où on ne sait plus où est la définition, on ne sait plus ce qu'on peut faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On est toutes des putes, on n'est pas des putes. Bref, on en a marre. Ça fait des années, Geneviève, vous en êtes la preuve, qu'on essaye de faire avancer les choses et ce n'est jamais assez. Donc là, en fait, il y a une fracture qui est en train de se créer entre l'homme et la femme, même l'hétérosexualité, j'ai envie de dire, qui devient aujourd'hui un vrai sujet, un vrai débat. Et donc, les 4B en Corée, c'est quoi? C'est à la base un mouvement minoritaire, hein, de femmes qui disent, bah écoutez, puisque vous ne voulez pas nous respecter, puisque on est encore en 2024 et que la femme est toujours traitée de la sorte, et ben on va arrêter toute relation avec les hommes. Donc les 4B, c'est quoi en coréen? Je vais le traduire en français, de toute façon je ne parle pas coréen. C'est arrêter le mariage, arrêter les relations sexuelles, arrêter la maternité et arrêter aussi le dating. Donc en fait, il n'y a plus aucun contact avec
jusqu'à
l'homme.
Jusqu'à quand, par exemple? Quel est le point de bascule qui fait qu'on y retourne?
Je sais pas, je pense que là c'est où est-ce qu'on va mettre nous aussi notre militantisme et jusqu'où on est prête à sacrifier, parce que je pense que c'est un sacrifice. On fait pas ça par plaisir. Quand on est hétérosexuel, l'amour c'est la plus belle chose qu'il peut avoir sur terre. Donc quand on décide de se priver d'amour, c'est que vraiment il y a un mal-être très profond finalement.
Aux États-Unis en tout cas, le slogan c'est pas de relations sexuelles avec des hommes tant que je n'aurai pas récupéré mes droits. Donc en fait, la limite ce serait un retour en arrière sur la fin de l'arrêt Roe v. Wade qui constitutionnalisait l'avortement aux États-Unis. Il y a une augmentation de 450% des recherches sur Google pour le thème phobie 4B et donc des Américaines qui disent pas de relations sexuelles jusqu'à la réassurance de nos droits. Restez avec nous, dans un instant on s'intéresse au phénomène de nano-influenceurs, des personnes comme vous et moi, suivies par quelques centaines ou quelques milliers d'abonnés qui se sont transformés en véritables panneaux publicitaires pour des marques. Mais d'abord, on écoute Iliona.
C'était juste des passages. De toute façon, c'est pas comme si je t'aimais, genre grandiose. Pas envie de romancer.
C'est tout simplement l'un des albums francophones les plus attendus de 2025. Iliona, qu'on a longtemps annoncé comme la nouvelle Angèle, s'apprête à partager son premier album le 14 mars, What If I Break Up With You, et Si Je Te Quittais. Depuis le mois de juin, on a déjà pu découvrir quelques singles, dont cet excellent Lâche-moi la main, balade planante au clip poétique qu'Iliona a elle-même réalisé, puisque dès ses débuts en 2020, Iliona écrit, compose, enregistre, mixe, réalise et supervise ses clips. Elle vient même de monter son propre label, ça s'appelle Je vous amour. Elle démarrera en septembre sa toute première tournée qui passe par Toulouse, Bordeaux, Lille, Nantes, Marseille et par un Olympia quasi complet tout de suite le 13 novembre. Et dès ce lundi, tiens, elle sera mon invitée nouvelle tête dans le 7-10 de France Inter.
Mathilde Serrel, un monde nouveau sur France Inter.
Coucou TikTok, alors je vous emmène avec moi à Auchan. Comme d'habitude, je suis passée dans le rayon bébé pour voir la nouvelle collection et je trouve que franchement, pour une fois, elle était vraiment pas mal. Dans les tons un peu marron beige, je pense que ça va être la tendance de cet hiver et franchement, j'adore. Donc on a les pyjamas avec le bonnet pour 10,99€. Je trouvais pas ça excessif pour une fois. Parce que généralement, à Auchan, c'est vrai que des fois, c'est pas donné pour ce que c'est. Mais là, je trouve que ça valait le coup. Après, il y a le petit ensemble avec le pull renard que j'adorais. Je trouvais ça mimi. Et cette veste, par contre, je ne l'ai pas pris. Mais franchement, je pense y retourner juste pour prendre cette veste parce qu'elle est trop belle et elle a l'air trop chaude. Ensuite, les pyjamas, c'est pareil. J'ai pas encore été voir ce Akihabi, donc je vais attendre avant d'acheter. Mais j'ai adoré la collection. C'est vraiment trop, trop beau.
Bonsoir Raphaël Demar.
Bonsoir.
Vous avez cofondé l'agence Sampléo, qui est une agence spécialisée dans les nano-influenceurs. On va expliquer ce que c'est. Et vous êtes directeur général de Webedia Creators, les nano-influenceurs. Ouh là là, expliquez-nous.
Alors en fait, nous on est parti du postulat que être influenceur, c'était pas seulement une question d'audience sur les réseaux sociaux, de savoir si on avait X abonnés sur YouTube, sur Instagram, etc. C'est que finalement, au quotidien, on est tous et toutes des influenceurs parce que le dernier restaurant qu'on a choisi, la dernière destination de voyage, le dernier produit cosmétique qu'on a acheté, on s'est en partie fait influencer par nos proches parce que ils nous ont conseillé des lieux à visiter, ils nous ont donné des avis sur une crème cosmétique qu'ils ont essayé, ils ont fait une recette de cuisine avec un produit qu'ils ont pu essayer. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des nano-influenceurs, dans le sens où ce sont des personnes qui influencent nos comportements d'achat, sans pour autant avoir des velléités à développer une croissance sur les réseaux sociaux en termes de nombre d'abonnés.
Alors, comment ils sont devenus capital, justement, pour les grands groupes, plus que la fameuse ménagère, même si, bon, c'est terrible, hein, le ou la responsable des achats, ouais.
Aujourd'hui, en fait, il faut voir une chose, c'est que on appelle ça des ambassadeurs de marque. Ce sont des personnes qui ont compris que, aujourd'hui, 80% du volume de contenu sur Internet est créé par des consommateurs et créé par des personnes comme vous et moi. C'est ce qu'on appelle les UGC, User Generated Content, qui sont des avis laissés sur des plateformes marchandes, qui sont des commentaires sur des billets de blog, qui sont tout un ensemble de choses dont le contributeur premier est le consommateur. Et donc la marque a compris qu'en fait il y avait un triptyque entre moi, ma communication de marque, ce dont j'ai besoin en termes de valorisation de ma marque, de mon ADN, etc., mon site, mes réseaux sociaux, etc., la partie publicitaire, communautaire, influence, parce que c'est dans l'air du temps, mais pas que, aussi la publicité classique, et le troisième c'est tout le volet consommateur, c'est comment est-ce que j'utilise en fait un consommateur comme un porte-voix de ma marque. Et en fait, ce que je dis souvent, pour bien comprendre ce sujet-là, c'est que c'est finalement le plus vieux métier du monde, c'est la réunion Tupperware. Pourquoi ça a marché? C'est parce que les marques ont compris que les consommateurs étaient en capacité d'avoir une force de persuasion via de l'authenticité de la recommandation qui était exceptionnelle pour les marques.
Et comment ça s'est enchâssé avec la question de l'influenceur bon plan, je l'appellerais comme ça, celui qui est apparu depuis quelques années, juste au moment de la crise du Covid, puis de l'inflation galopante, et qui échange des bons plans de réduction, qui va dire allez chez Lidl, allez acheter tel truc, etc.
Et en fait, on a eu un espèce de de croisement de courbes, en tout cas un momentum qui fait que il y a eu ce sujet, en effet, Covid, inflation, difficile de boucler les fins de mois, etc. Donc, une prise de conscience de la part des consommateurs qu'il fallait acheter plus raisonnable, acheter moins cher, acheter mieux, acheter, enfin voilà, de manière un peu différente. Et l'avènement des réseaux sociaux qui font que, bah, en fait, un bon plan que j'ai, que je vis à titre personnel, j'ai la capacité de le partager à un plus grand nombre parce que c'est pas juste cantonné à mon cercle proche de personnes avec qui je vais discuter en sortant de l'école, en allant discuter avec les parents d'élèves ou en allant au bureau et parler aux collègues à la machine à café, mais aussi que ce fameux porte-voix dont j'ai parlé était en capacité de propulser en fait ces bons plans-là à un plus large public, ce qui est une mine d'or pour les marques, sans compter un phénomène qui est assez nouveau, qui est tout ce qui est rétribution auprès des influenceurs des ventes qu'ils peuvent générer via des liens d'affiliation.
Ah oui.
Donc ça c'est assez.
Donc ils sont intéressés à ce qu'ils ont vendu ou à ils ont des actions.
Alors des actions c'est pas exactement ça, mais c'est les marques vont solliciter des influenceurs en leur disant voilà, nous on a vu que tu es un influenceur dans tel domaine, on aimerait que tu fasses la promotion
des
de
influenceurs
tel produit,
de niche quand même
de
plutôt.
Niche exactement, donc très spécialisé, parce qu'il faut voir une chose, c'est que nous aujourd'hui on parle de verticalisation de l'influence, parce que en fait aujourd'hui il faut avoir une niche, si on veut avoir de l'efficacité dans son discours il faut être expert d'un domaine. Avant il y avait, on appelait ça des youtubeurs, des instagrammeurs, aujourd'hui on va dire c'est un influenceur voyage, c'est un influenceur cosmétique, c'est un influenceur green, etc., etc. Donc on a déjà une spécialisation dans le type de contenu de par le ton et la ligne éditoriale qu'ils vont employer dans leur contenu.
La mère de famille influenceuse, elle est importante pour les marques, justement. Là, on se retrouve avec la ménagère, on pensait l'avoir quittée.
Exactement. Non, mais, et en fait, au-delà de la mère de famille, ça va être, aujourd'hui, on vise la mère de famille qui a une conscience écologique. On vise la mère de famille célibataire. On vise la mère de famille sportive. On vise, etc. Donc on est vraiment dans des sous-catégories qui font que on est plus précis dans notre.
Et c'est alimenté par les données auxquelles vous
exactement,
avez accès, vous n'aviez pas forcément
alimenté,
avant.
Exactement. Et donc sur cette fameuse question de tout ce qui est affiliation, c'est de dire je suis une marque, je vais aller voir mon cœur de cible d'influence, je vais leur demander de faire la promotion de mon produit et je vais leur rétribuer une partie de mon revenu, exactement comme on faisait à l'époque sur des blogs où on disait bah en fait parle d'une destination, mets un lien dans ton commentaire sur l'hôtel dont tu as parlé et moi en hôtelier je vais te rétribuer une partie de la vente que je vais générer grâce à ton article de blog. Et ben là, c'est pareil, sauf que c'est du contenu d'influenceur qui va être diffusé sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube ou autre. Et donc, le consommateur, l'influenceur, va être rétribué sur une partie de la vente générée.
Parce qu'on a le lien, on sait que ça vient de
exactement.
Son compte au moment du clic dans le parcours numérique.
Ouais, ça s'appelle les liens de tracking. Voilà.
Il y a des produits qui se vendent que grâce au réseau. Par exemple, il y a eu ce phénomène sur la pâte à tartiner, Elle Morgen, c'est un phénomène des réseaux en cette rentrée. Personne connaissait cette pâte à tartiner. Et il a suffi qu'il y ait une vidéo comme ça pour que ce soit en rupture de stock.
Exactement.
Ça, c'est un peu le. C'est ce que vous racontez quand, vous... quand vos clients viennent
c'est
vous
la
voir.
Belle histoire.
Voilà.
C'est la... Exactement. C'est-à-dire
je
que.
Je peux te faire un Elle Morgen.
Voilà. Non, mais c'est surtout c'est la puissance des réseaux sociaux et c'est la beauté tout en étant la chose qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire que ça peut partir très vite dans un sens. Dans un bon sens, ça peut partir dans un mauvais sens, naturellement, hein, comme on parlait des cryptos tout à l'heure, il y a du bon, du moins bon, il y a volatilité des cryptos, il y a la volatilité des contenus des influenceurs aussi. Et en fait, c'est vrai que si on a la bonne cible influenceur qui touche elle-même la bonne cible d'audience, parce qu'en fait, il y a une conviction, enfin, il y a un parti pris, pardon, qu'il faut absolument comprendre, non, un influenceur féminin de 25-35 ans n'a pas 100% de son audience qui sont des femmes de 25-35 ans. C'est pas vrai. Donc nous, on a la capacité, via les outils dont on parlait tout à l'heure, d'ouvrir le capot et de dire, ok, cet influenceur-là, il touche telle audience. Donc si on a le bon influenceur qui touche la bonne audience avec le bon produit, le bon message, avec le bon format, eh ben, on a la capacité de faire des miracles.
Il y a quelque chose d'assez infernal aussi, on l'a vu avec les réseaux, avec le Black Friday, ça génère énormément d'audience. Je parlais des influenceurs bons plans, des coûts de réduction, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une société qui devient accro à ces conseils bons plans, qui pédale dans une roue de hamster on avait parlé de la tendance underconsumption sur TikTok, qui était de la sous-consommation, faire attention, mais en fait, finalement, ça générait de plus en plus de contenu et de plus en plus de gens qui consomment.
En fait, il faut voir une chose, c'est que le Black Friday est devenu un événement e-commerce et un événement sales au sens large tellement important que forcément, ça a été préempté par, par les influenceurs. Donc oui, il y a une saturation de certains messages, ça c'est évident. Après, encore une fois, c'est est-ce qu'on a la bonne promo au bon moment véhiculée par le bon influenceur ? Alors oui, ça a du sens. Maintenant, on ne va pas se leurrer. En fait, c'est un stimuli de plus dans le paysage publicitaire global. C'est-à-dire que vous allez être exposé dans le métro à la publicité sur, je ne sais pas moi, les nouveaux écouteurs de telle marque. Et puis, l'influenceur va en parler. Et puis, une pub télé. Puis, vous allez à la FNAC, il y a une PLV sur le produit. Et en fait, tout ça va constituer in fine votre acte de conversion.
Il y a un effet de bulle, du coup, là aussi. Ça va s'arrêter un moment.
Ça va s'arrêter. C'est, encore une fois, c'est le mot qu'il faut retenir, c'est la saturation. C'est la saturation. Au bout d'un moment, les audiences, elles ne vont pas indéfiniment être exposées au même message.
Merci. Merci Raphaël Demnard, cofondateur de Sampléo. Si certains auditeurs veulent devenir des consommateurs ambassadeurs, ils peuvent s'inscrire sur votre site. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Mélissa Amneris, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On peut vous suivre sur Instagram et vous écouter dans le podcast Deep, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, merci beaucoup à Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, directrice de recherche émérite au CNRS. On renvoie vers vos livres « L'égalité sans retour », paru chez CNRS Éditions en 2024, mais aussi « Du consentement au seuil »,« Le féminisme, ça pense », encore aux éditions du CNRS, ou encore « La suite de l'histoire, artiste, créatrice », c'était au seuil en 2019. Et merci à Eddie Blanchard, votre essai bimbo « Repenser les normes de la féminité », stimulant, c'est sorti chez JC Lattès. Et grand merci aussi à toute mon équipe. La rédaction en chef, c'est Redouane Tella. La réalisation, Amélie Mico, Frédéric Milano et David Leprince. La préparation, c'est Marion Philippe et Marius Serriès. La programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Et à la technique ce soir, Théo Delovader.